Vous écoutez
RMC.
Demain soir, les gars, on ouvre demi-finale de Ligue des Champions. Ça va courir, bien sûr. Le Real Madrid face au Bayern. Bayern-Real, grand classique européen. On en parle avec vous, les drôles de dames. Tu disais tout à l'heure, tu posais la question, est-ce que ce Real n'est pas un peu trop confiant avant ce duel? Pourquoi tu dis ça? Est-ce que c'est ton sentiment? Est-ce que c'est tu vois ça, tu lis ça dans les déclats des Madrilènes?
Non, non, je pense que c'est plus l'atmosphère qu'il y a à Madrid autour de ça, en disant, ça y est, on est en finale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont passé l'OS City et que le Bayern n'a pas dégagé cette saison, en tout cas vu d'Espagne, et une sérénité telle qu'on pouvait la connaître, il y a un sentiment, allez, ça y est, on est déjà en finale contre le PSG, quoi. Et ça, alors après, c'est tout le travail d'Ancelotti de travailler avec ses joueurs et les joueurs, voilà. Mais même dans les déclarations des joueurs et tout, t'entendais Valverde qui dit qu'il a pas pris le penalty, le tir au but contre City tellement il était crevé, quoi. Donc ils s'attendent pas à deux matchs aussi durs contre le Bayern que ce qu'ils avaient eu contre City. Même si il y avait quand même quelque chose d'historique, et avec le Bayern, c'est vraiment la demi-finale de Ligue des Champions par excellence, quoi. C'est-à-dire, on a tous des souvenirs extraordinaires, quoi. Rappelez-vous le 4-0 d'Ancelotti, la décima, la fameuse décima en 2013, les 4-0 sur la pelouse du Bayern de Guardiola. Le fameux penalty manqué de Ramos, vous souvenez, qui restera l'un des souvenirs les pires de Mourinho. C'est en demi-finale et le Real ne va pas en finale à cause d'un penalty au Ramos. Alors il y a plein de conneries qui ont été racontées après, parce qu'on dit qu'il est toujours en orbite le ballon tellement il a tiré au-dessus de la transversale, quoi. Donc c'est vraiment un match particulier. Mais moi, ce que je crains, c'est de dire voilà, on a fait peut-être un petit peu le plus dur, même un exploit face à City. Et là, il y a vraiment un boulot quand même de la part d'Ancelotti de rappeler l'importance de ce match et que le Bayern est il est aussi dangereux, voire plus dangereux que City, voilà. Donc
Polo, t'es d'accord avec ça? Bon, le Bayern, hein, c'est pas tout à fait le même qu'avant le quart de finale, notamment, quoi. On est sur 4 victoires consécutives en Bundesliga dernier ce week-end, bien sûr.
4 victoires à la suite, il y a une qualification contre Arsenal alors que tout le monde annonçait que le club munichois allait se faire sortir. Il y a surtout donc le fait d'être revenu en demi-finale de Ligue des Champions, ça n'a l'air de rien, mais ça faisait 3 ans que le Bayern n'y était pas. Moi, je constate, malheureusement pour le jeu produit ces dernières saisons par le Bayern Munich, que c'est une équipe peut-être un peu plus solide, un peu plus cynique, qui récupère un paquet de ses joueurs là pour cette demi-finale, parce qu'apparemment Moussiala et Leroy Sané seront titulaires, alors que ces dernières semaines on jouait avec Thomas Tuchel et Choupo-Moting notamment.
Thomas Müller et
Choupo-Moting notamment. Je constate aussi, comme Fred l'a dit, que ce derby d'Europe, une fois de plus, est en demi-finale, parce que ces deux clubs monstrueux européens ne se sont jamais affrontés en finale de Ligue des Champions,
c'est fou,
faut pas
ça.
L'oublier. Ouais. C'est un truc complètement fou. Et qu'à chaque fois, c'est super serré. C'est-à-dire qu'il y a le 4-0, évidemment, mais quand tu regardes l'histoire entre les deux confrontations, c'est pas une question de qui est le favori, pourquoi, comment. C'est que souvent, ça a été en prolongation, parfois, ça a même été au péno, etc. Et ça se joue à pas grand-chose. Sur la double confrontation, on peut considérer que le Real est favori parce que, justement, ils ont sorti Manchester City, qui était le favori de la compétition, mais c'est aussi peut-être un désavantage, c'est-à-dire que doit faire le Bayern? Le Bayern, ce week-end, il s'est qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, donc on a sauvé le minimum syndical. Là, on rencontre le Real, si on se fait sortir par le Real, bon, ok, c'est l'histoire qui parle, pas grave. Mais pourquoi on ferait pas un exploit? Et en plus, une fois, il y a quand même un coach aussi, Thomas Tuchel, en fin de saison, qui ne sera plus là, qui, sur les derniers exercices en Ligue des Champions, a amené Paris en finale, l'a emporté avec Chelsea, et quand je dis ça, c'est avec une méthode très cynique, beaucoup moins engageante au niveau du jeu que Nagelsmann, par exemple. Mais est-ce que Arsenal a eu beaucoup, beaucoup d'occasions lors de la double confrontation? Je suis pas persuadé, avec les souvenirs que j'ai de des doubles rencontres. Voilà, il y a la dimension physique qui est très importante. Je constate que même les Anglais, dans certains papiers, ont trouvé que le Borussia Dortmund et le Bayern Munich avaient une densité physique qu'on n'avait peut-être plus l'habitude de voir ces dernières saisons, et notamment lorsqu'on parle de certains clubs anglais. Donc voilà, moi, il y a des choses qui me semblent importantes. Et encore une fois, moi, je sais pas, Real Bayern, je lance la pièce en haut et puis elle retombe où elle a envie, quoi.
Ouais, je suis d'accord.
Moi, ça me dérange pas.
Mais c'est un peu le duel de la vieille aristocratie du football, en fait, hein, face aux nouveaux riches. On est vraiment dans un esprit différent. Et eux-mêmes se sentent un petit peu à part par rapport à d'autres clubs. La dimension physique est importante. Alors, il faut expliquer quand même que le Real, ce week-end, ont pu faire tourner tournée, mais ils ont gagné à Saint-Sébastien. On en a parlé vendredi soir, mais avec l'équipe BBB, c'est-à-dire avec des remplaçants. C'est-à-dire que il y a un voire deux joueurs qui étaient titulaires ce vendredi, qui risquent d'être titulaires demain. Donc c'est dire que là, ça fait un vrai repos pour les joueurs du Bayern, du Real, qui ont quand même beaucoup souffert physiquement contre City. Tout à l'heure, Sofiane nous posait la question du 11 contre le Real. C'est quasiment sûr. Il y a qu'un vrai doute. Est-ce qu'Ancelotti va mettre Nacho en défense centrale, qui a été exceptionnel contre City au match retour, ou mettre
Tchouaméni.
Voilà, c'est le seul doute, parce que pour le reste, bon, alors il y a Lucas Vázquez qui va jouer à la place de Carvajal, parce que Carvajal est suspendu, mais Lucas Vázquez qui était exceptionnel, notamment contre le Barça lors du Classico, hein, participant aux trois buts de la victoire. Donc voilà, franchement, là, et puis il y a le côté, là aussi, c'est un match contre le Bayern, donc là, il y a tout ce qu'il y a, la dimension de, qu'on appelle ça, j'ai plus le mot en français, vous savez, quand on croit à des trucs, les talismans, etc. Ah. Superstition.
La superstition.
C'est-à-dire que comme à City, ils avaient emmené un gamin d'origine de Porto Rico qui s'appelle Jérémy De León, qui joue comme attaquant au Castilla, qu'ils avaient emmené pour notamment pour les entraînements, à la veille du match, etc. Comme ils ont gagné à City, enfin comme ils se sont qualifiés à City,
d'accord,
ils l'ont ramené dans l'avion, alors qu'il devrait jamais être là, ils l'ont mis dans l'avion là.
Non.
Il y a ce côté-là très 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 superstitieux qui font qu'on sent les grands matchs. Après, on attend toujours depuis le début de l'année 2024 le grand match de Bellingham. Il n'est pas vraiment venu contre City, donc on l'attend là maintenant. Il n'est pas vraiment venu, même s'il a marqué le but de la victoire contre le Barça. Il fait pas un grand match. Donc il y a ça. Donc j'ai très très envie de voir cette demi-finale. Et je vais vous dire, pour moi, elle m'excite encore plus que le quart de finale contre City, parce qu'il y a un petit côté vintage,
il y a une dimension historique presque encyclopédique
qui fait, et oui, je vais vous dire pour beaucoup de supporters du Real, perdre contre City de Guardiola, c'est insupportable. Tu perds contre le Bayern, c'est chiant, mais c'est pas si grave.
Bon, on parlera d'Harry Kane également plus tard, peut-être lundi prochain, on verra le match aller, lui qui court après un premier titre dans sa carrière et qui veut prolonger cet espoir cette saison. En revanche, mon cher Polo, on voulait pas Clément Turpin, c'est lui qui sera l'arbitre de ce match entre le Bayern et le Real. C'est un très mauvais souvenir pour le Bayern. T'as Uli Hoeneß, hein, qui a rué dans les brancards, qui a dit qu'il aura quand même du mal à faire pire que la dernière fois. La dernière fois, c'est le 19 avril dernier 2023.
Hein. Alors ouais, il y a ça.
Et
il y a quand même aussi, ne l'oublions pas, enfin cette semaine, l'interview d'Uli Hoeneß, je pense que le club munichois n'est pas un club comme les autres, parce qu'il y a les Elephantons qui sont toujours là, ceux qui sont au board. Uli Hoeneß a fait une interview fracassante dans la FAZ, la Frankfurter Allgemeine Zeitung, où il a juste tranquillement égratigné, je vais dire ça d'une façon diplomatique, son actuel coach Thomas Tuchel, en lui faisant comprendre que finalement Thomas Tuchel n'est pas un coach pour développer des jeunes joueurs comme Davis, comme Pavlovic ou d'autres. Il dit, lui, tout ce que sait faire Thomas Tuchel, c'est lorsque ça ne va pas, il faut acheter un nouveau joueur. Ce qui au passage n'est pas complètement faux quand tu vois l'évolution de Thomas Tuchel et de certaines de ses déclarations il y a quelques années, où il se considérait plus comme coach formateur. Il a été blessé, Thomas Tuchel, il a répondu, faisant comprendre que c'était un peu scandaleux d'entendre ce genre de choses, etc., et qu'il se sentait blessé en tant que coach, pas dans sa fierté la plus profonde. Et c'est aussi l'ambiance du Bayern Munich, c'est-à-dire qu'une demi-finale de Ligue des Champions, où beaucoup de personnes auraient tendance à dire bon bah si ça ne s'aime pas, voilà, c'est important, le match est là. Ben non, au Bayern c'est différent. Il y a le vieux, 72 ans, Uli Hoeneß, qui met une cartouche dans à son entraîneur juste avant. Donc moi je trouve ça.
Il est placide de Pastorel, hein, avec toutes les critiques qu'il prend. Il se fait tancer chaque semaine quasiment par la direction. Oui. Il est là en demi-finale de Ligue des Champions. Voilà. Exactement. Pour ce Bayern Real. Mercredi soir sera sur RMC. Mardi soir sera sur RMC, bien sûr. Dès demain 20h, l'avant-match. La minute deuxième de la soirée, elle est italienne. On envoie la musique, Polo.
Ero zenotti, macchina calda, e dove ti porta decide lei. Certe notti la strada non conta.
Gigabue, j'ai déjà mis d'autres chansons de lui, j'adore. Grand tifoso de l'Inter, certe notti, la chanson. Donc pour rendre hommage au titre de l'Inter, j'ai choisi un chanteur interiste qui était dans la Gazzetta dello Sport il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, pour exprimer son amour de l'Inter. Et on va parler de Sassuolo, ça se passe pas bien. Pris 5 buts à Florence hier soir, après une défaite 3-0 à Lecce à domicile. Et surtout le club qui file tout droit vers la Série B. On n'imaginait pas trop ça parce que c'est un club qui nous avait habitués à nous surprendre un petit peu, à finir entre 8 et 12 de manière très régulière. Et puis bah, ils sont allés un peu trop au bout, à l'extrême d'un système qui remplit les caisses mais qui paupérise un peu l'effectif. Et le problème, c'est que il n'y a pas si longtemps que ça, t'as vraiment rempli les caisses pour le coup avec les Scamacca, Spadori, Boga. Ils ont perdu aussi Djuricic. Ils ont perdu beaucoup de joueurs. Et derrière, bah quand tu ne remplaces pas bien, quand tu investis moins, quand tu rates ton recrutement, et ben tu as une saison de galère. Ils sont en plein dedans. En plus, Berardi, qui est vraiment le joueur majeur de cette équipe-là, a eu quasiment des blessures toute la saison. Il a très très peu joué cette saison, alors que c'est un joueur vraiment majeur même de Serie A pour le coup, qui n'a rien à faire à Sassuolo en temps normal, si ce n'est son amour pour le club. Et ben on va retrouver sans doute cette équipe-là, qui était un peu un modèle de développement pour beaucoup, pas seulement en Italie d'ailleurs, mais on le regarde un peu comme un modèle partout en Europe pour les clubs de cette stature-là. Et ben on va le retrouver en Serie B, mais ils auront en tout cas toutes les ressources pour remonter rapidement, pour remonter un projet. Ça, je me fais pas tout de suite. Ils ont la Mapei derrière, qui est quand même très très grosse entreprise italienne, avec la famille Squinzi qui perdure malgré le décès de Giorgio il y a plusieurs saisons. Donc c'est peut-être qu'un au revoir de quelques mois, mais c'est en tout cas une très mauvaise saison de Sassuolo.
On suit la trajectoire également de Maxime Lopez, prêté par Sassuolo à la Fiorentina. Ouais. Savoir s'il va revenir à Sassuolo.
Bah, s'il revient, il ne sera pas pour aller en Serie B.
Sans Serie B, mais non. Donc voilà, peut-être en Ligue 1, une idée pour les clubs français qui peuvent nous écouter également, parce qu'il avait marqué de son passage, hein, Sassuolo.
Et puis avec De Zerbi, ça se passait très 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 bien avec De Zerbi et Locatelli. C'était une très belle parenthèse de la carrière de Maxime.